Bien, nous allons revenir à notre série d'études dans la Genèse et aujourd'hui, nous avançons un peu, plutôt dans le chapitre 37 de la Genèse. Nous allons lire les versets 17 à 36 et puis après cela, nous allons faire une petite pause. On ne sait pas encore les détails, mais voilà. Aujourd'hui, nous allons voir Genèse 37, 17 à 36, et le titre de ce message, c'est Rejeté par ses frères. Je donne lecture donc. Nous avons donc Joseph qui était envoyé à Sichem. Il est à Sichem, envoyé par son père, nous avons vu ça la semaine dernière, et là, il ne trouve pas les frères, mais un homme le rencontre et il lui demande s'il sait où sont les frères. Verset 17, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Et c'est là notre passage maintenant. Verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il soit auprès d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes. Et c'est la parole de Dieu, rejetée par ses frères. Donc, après avoir tracé la promesse de l'alliance d'un sauveur qui viendrait renverser les effets universels de la chute, en présentant un peuple réconcilié dans la présence de Dieu, Moïse, l'auteur de la Genèse, s'est concentré sur un homme, Abraham. Puis, il suit la lignée de cet homme à qui Dieu a confié cette promesse, Isaac, et ainsi de suite. Et à partir du chapitre 37, comme nous l'avons déjà mentionné, et presque jusqu'à la fin de la Genèse, l'attention se concentre plus particulièrement sur un homme désigné par Dieu, Joseph, à l'époque un jeune homme. Nous sommes toujours dans le cadre de l'alliance qui a été promise, mais le mode a quelque peu changé. Nous en avons déjà parlé. Dieu montre maintenant plus précisément comment il va accomplir son plan de rédemption. Et donc, à partir de là, il va susciter une certaine espérance dans le peuple, une certaine attente, n'est-ce pas, au cours des siècles, des millénaires. Plus particulièrement pour notre passage aujourd'hui, il montre sur quelle toile de fond se déroule ce plan de rédemption que lui-même a conçu depuis toute éternité. Et c'est pourquoi nous voyons plus directement toute une série de parallèles assez directs entre l'ombre de Joseph et ses frères, d'une part, et le Seigneur Jésus-Christ lors de son ministère terrestre, d'autre part. Tout notre passage et les chapitres suivants parlent plus directement de lui et de son œuvre. Ceci étant dit, précisons que les ombres, Joseph, les frères, Jacob, ont une existence bien réelle. On ne va pas simplement sauter directement à Jésus-Christ d'une façon allégorique. C'est beaucoup plus réel que ça. Cela signifie que tous les détails de l'histoire ne sont pas nécessairement transposables. Et donc on est libéré d'une allégorisation à l'excès. On a déjà vu la dernière fois, par exemple, que si Joseph est celui qui est appelé à accomplir le salut de sa famille et de toute la région à cette époque-là, et qu'en cela, il est une image très claire du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de salut, il n'est cependant pas le sauveur, grand S, dans un sens absolu. Pas du tout. Il y a donc, dans son histoire, un va-et-vient incessant entre ombre et réalité. On va regarder Joseph un peu comme une parabole, ici. Nous prenons donc aujourd'hui le récit au point où Joseph, envoyé par son père pour s'assurer du bien-être de ses frères, mission de compassion, on a remarqué, les trouve finalement à Dothan. Et juste une petite parenthèse, s'il les avait trouvés à Sichem, rien ne se serait passé. La haine des frères était toute la même, mais Sichem, c'était un petit peu la campagne. C'est en dehors des voies de communication. Dothan est en plein sur une voie commerciale. Et c'est pour cela que la caravane des Ismaélites va arriver. Simplement petite parenthèse. Ici, nous prenons au point où les frères le voient venir de loin. Et notre premier point, nous allons l'intituler « Le complot ». Le complot. Dès que les frères aperçoivent Joseph, avant même de s'enquérir de l'objet de sa venue, leur colère à son égard se rallume. C'est très intéressant de remarquer que la colère n'est pas contre Joseph. Elle est contre ce faiseur de rêves, n'est-ce pas? Et puis, elle est contre le fait qu'il représente quelque chose. Ils vont tout de suite le dépouiller de sa tunique spéciale, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils le voient de loin, avant même quoi que ce soit, leur colère se rallume, ce qui montre qu'elle était là tout au long. Elle était latente. Ce n'est pas que tout d'un coup, elle est créée. Non, elle est simplement mise en exercice. Et nous avons déjà vu que l'enfant de la grâce ne peut pas cohabiter avec l'enfant du monde, avec l'enfant de la chair. La chair ne peut pas cohabiter avec la grâce. Il n'y a pas de possibilité. C'est exclusif. La justice qui habite dans le cœur du croyant, en vertu de ce que Dieu a fait, et qui se manifeste dans sa vie, ne fait qu'attiser la haine du monde. Le monde ne peut pas s'empêcher d'agir ainsi. Vous avez des voisins qui sont très sympathiques, n'est-ce pas? Ils sont très sociaux, mais commencez à mettre la pression. Je veux dire pression. Commencez à mettre le défi de l'évangile devant eux et vous allez voir combien sociaux ils restent. C'est impossible. Et la justice a cet effet-là, la justice de Christ, qui transparaît chez le croyant et dans sa vie. Et cela a une application directe aujourd'hui. Beaucoup de croyants authentiques sont perturbés, ils sont intimidés, découragés même par cette haine du monde. Personne n'aime être haï. Mais nous devons nous souvenir que la plupart du temps, la haine du monde ne se dresse pas contre ma personne, mais contre mon statut. C'est parce que Dieu a fait de moi ce qu'il a fait de moi que le monde me hait. Il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je fais des bêtises. Ça, c'est autre chose. Complètement. Cette haine du monde, irascible, n'est-ce pas, n'est pas contre moi, mais elle est contre l'œuvre de Dieu qui transparaît en moi si je suis en fait obéissant. Alors ici, comment est-ce que les frères vont-ils réagir? La parole nous dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant, irréformable. Ça n'est pas possible. Dès qu'ils le virent de loin, ils avaient déjà comploté et décidé de le faire mourir. Dès qu'ils le virent de loin. Quand vous êtes face au monde, croyant, ne pensez pas que le monde est juste. Les dés sont pipés depuis le départ. L'esprit du monde n'opère pas selon la vérité, malgré tout ce qu'il dit, mais il est tordu dans son essence. Et combien de fois on voit cela dans les nouvelles, dans les flashs d'information et tout ça? On a une situation de tension et on pense que d'un côté tout est bien, de l'autre côté tout est mal, mais attendez quelques jours et on va s'apercevoir que le noir n'est pas si noir, le blanc n'est pas si blanc. Nous avons ici un aperçu très perspicace de la psychologie biblique, une image très exacte et très crue, en fait, du cœur de l'homme pécheur. Il y a une dépravation invétérée qui afflige tout homme, tout être humain sur cette terre. En effet, nous ne sommes pas ici en présence des réprouvés de la société. On n'est pas face à des païens, si on peut dire. Les dix frères, tout au moins, les dix frères, sont la postérité d'Abraham, la lignée à qui les promesses ont été confiées. Ce sont des hommes matures qui ont entendu depuis qu'ils étaient enfants les histoires par leur père, par leur grand-père, ce qui était advenu à leur arrière-grand-père. Ce sont les futurs chefs des tribus d'Israël, des hommes qui ont été enseignés depuis leur jeunesse au sujet de l'Alliance, au sujet du péché. C'est le peuple élu de l'Ancien Testament. Et que voyons-nous? Parmi ceux qui devraient être, qui ne devraient, parmi tout le monde d'autres, ne devraient pas être pécheurs, là, que voyons-nous? La dépravation la plus naturelle et la plus invétérée. Joseph n'a aucune chance. La première chose à relever, c'est leur injustice. Avant même que Joseph soit auprès d'eux, ils ont déjà déterminé de le détruire. Le monde aime parler du bon fond qui dort au plus profond de l'homme, ce bon fond qu'il faut attiser et exercer. On va le mettre dans les meilleures conditions, n'est-ce pas? Et nous voyons parfois ces choses se manifester dans des élans sentimentaux. On voit des grands élans de solidarité qui répondent au désastre. Ces choses confortent les pensées que l'homme est foncièrement bon. Il est en fait plus juste de dire que l'homme se sert de ses élans émotionnels pour se persuader de ce qu'il a déjà décidé de croire à son propre sujet. Il a décidé qu'il était bon, qu'il allait y arriver et qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit en dehors de lui. Si l'être humain était vraiment neutre et que son bon fond était une réalité, nous la verrions s'exprimer sans qu'il y ait de motivation extérieure. Pourquoi est-ce que pour récolter de l'argent, il faut faire des activités particulières? Normalement, on devrait dire, mais voilà, il y a un besoin, donnons. Mais non, il faut qu'on amène du divertissement. Et cela nous indique quel est l'état du cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme était neutre, il n'y aurait, par exemple, pas de lieu de culte, sinon à sa propre gloire. Or, que voyons-nous? Sans cesse, c'est l'activité religieuse d'un être coupable, d'un être qui se sait coupable et qui cherche à réprimer cette connaissance ou à l'apaiser par toutes sortes d'offrandes. L'homme pécheur est en fait l'esclave de Satan, qui est lui-même le père du mensonge, et donc l'homme naturel, l'homme qui raisonne selon ses propres capacités, ne cesse donc de se mentir, et cela parce qu'il possède une nature dépravée. Et c'est la vérité au sujet de chacun d'entre nous par nature, sans exception, sans exception. Et nous voyons cela chez les frères. Nous le verrons chez eux jusqu'à la mort de Jacob, jusque même après la mort de Jacob. Et si nous allons au chapitre 50 de la Genèse, verset 15, on voit que même à ce moment-là, ils n'arrivent pas à saisir la dimension de la grâce. C'est pour cela qu'ils viennent voir Joseph après la mort de Jacob et disent, mais ils inventent une histoire pour que Joseph, en fait, ne les traite pas selon ce qu'ils pensent qu'ils méritent. Notre Père nous a fait de te demander de ne pas nous donner ce que nous méritons, en fait. Ils n'ont rien compris de la grâce jusqu'à ce moment-là. Et là, on parle de probablement près de 40 ans plus tard, tout au moins 35 ans. Un cœur qui est pris par une haine irrépressible contre le bien. Et tous les efforts possibles pour se tromper par une façade acceptable sont tout à fait vains. Regardez, ne tuons pas notre frère, vendons-le seulement, parce qu'il est notre chair. Vous voyez un peu cette façade qu'il faut mettre pour cacher la culpabilité, une culpabilité qui est profonde et une haine qui est invétérée, une dépravation qui est invétérée. Nous voyons cette haine du bien et cette culpabilité depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Jean, l'apôtre Jean demande, « Et pourquoi Caïn tua son frère ?» Alors, nous savons bien sûr que parce que les œuvres d'Abel étaient justes, mais, c'est vrai, mais Jean, lui, relève quelque chose de différent. Il dit, « C'est parce que les siennes, les œuvres de Caïn, étaient mauvaises. Et c'est pour cela qu'il a tué son frère. » Voilà le cœur de l'homme, voilà notre cœur par nature, voilà mon cœur par nature. Quel espoir avons-nous? Si l'homme naturel était seulement une victime de Satan et des circonstances, il ne comploterait pas de loin. Tout esclave qu'il serait de Satan, il rechercherait la voie du salut auprès de celui qui fait le bien. Déjà, Joseph avait manifesté qu'il était différent. Et quand Joseph paraît devant ses frères, c'est la haine du bien et l'amour du mal qui se manifestent. Ce n'est pas la neutralité, Ne croyons pas ce mensonge de Satan. Voici celui qui aime la vérité. Rappelez-vous, les demi-frères de Joseph avaient des propos mauvais. Il est même possible qu'ils aient des propos mauvais à son sujet. Et il les rapportait à son frère, à son père, non pas comme un cafteur, comme on dit, non, mais parce que Joseph était pour la vérité. On pourrait aller plus en détail dans cet aspect-là, mais ça prendrait assez longtemps. Mais voilà celui qui aime la vérité, celui qui est choisi de Dieu pour amener plus loin la promesse, n'est-ce pas ? Celui à qui Dieu se révèle pour le salut de son peuple. Ça, c'est tout ce que nous avons vu dans les semaines précédentes. Et quel est le résultat ? Une haine insensée s'enflamme. Le seul qui est suscité pour leur salut, ils haïssent. Voilà la bêtise humaine. Nous voyons cela, surtout en rapport avec Jésus-Christ, la grande réalité qui est derrière Joseph, le filigrane qui donne la réalité à l'histoire de la valeur à l'histoire de Joseph. La Bible déclare qu'il est, il se distingue entre 10 000, c'est-à-dire qu'il est le meilleur, il est en fait sans pareil. Une vie parfaite et pure. Même ses ennemis ne peuvent pas lui trouver quelque chose pour le condamner. Une vie qui a donné à faire le bien. Et on envoie les huissiers pour l'arrêter, ils reviennent, mais nul homme n'enseigne comme cet homme. On l'amène devant Pilate pour le condamner, mais il dit « je ne trouve rien en lui pour le condamner ». Alors qu'il avait tout avantage de trouver quelque chose. Il ne trouve rien. Les Juifs voyaient les miracles, lisaient chaque sabbat les Écritures qui parlaient de lui. Et quel est le résultat ? Les voilà qui sans cesse se réunissent pour comploter et voir comment le mettre à mort. Pas écouter ce qu'il dit. Le mettre à mort. Et l'apôtre Jean nous dit encore ce jugement qui s'abat sur la race humaine, sur vous, sur moi par nature. Ce jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et pourquoi cela ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, des œuvres qui sont centrées sur eux-mêmes. Le message religieux de l'homme, le message qui dit « faites ceci, ne faites pas cela, et vous aurez un certain standing devant Dieu, une certaine position », ce message-là est acceptable, il est même désirable, l'homme le désire, oui, oui, moi je peux vivre avec ça. Il me fait me sentir bien, parce que j'arrive quand même à respecter un peu. Ça me permet d'avoir la pensée positive. Le message de l'évangile de Dieu, lui, plonge dans le désespoir. Et c'est notre problème des fois dans l'évangélisation. J'ouvre une petite parenthèse. Pour nous, chrétiens, nous avons ce problème parce que nous craignons de pousser les gens au désespoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais celui qui ne désespère pas ne va pas accueillir la bouée de sauvetage avec faveur, n'est-ce pas ? Non, le message de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut que Dieu donne, commence avec une mauvaise nouvelle, c'est le désespoir. Mais comment parvenir au salut sans faire face à la semence de la perdition qui existe et sans adopter le remède. L'homme qui souffre d'une maladie, une maladie grave, il va prendre des calmants pour estomper la douleur, n'est-ce pas ? Il se sent bien, mais la maladie continue. L'atténuation même de la douleur devient une cause de destruction et de perdition. Et le message religieux qui, sous diverses formes, se promène parmi la race humaine, ce message religieux, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose qui endort l'homme dans la destruction jusqu'à ce qu'il se réveille en enfer. Il n'y a aucun espoir de salut, mes amis, sans faire face au problème du péché. C'est impossible. De quoi est-ce que je dois être sauvé si je n'ai pas vraiment péché? Les frères ici ne font pas face à l'appel que Dieu leur lance à travers la personne de Joseph. Ainsi, ils causent beaucoup de misère à tout le monde et eux-mêmes s'enferment dans un cachot de culpabilité et d'endurcissement qui sera là encore, nous avons vu, près de 4 décennies plus tard. Et nous ne savons pas s'ils en sont jamais sortis. La parole ne le dit pas. Tout fondement des tribus d'Israël qu'ils étaient. Apprenons des frères, mes amis, que leur complot nous enseigne notre complet état de dépravation par nature. Comme le dit Paul, il n'y a rien de moi, je le sais. Il n'y a rien en moi qui soit bon. Et que le témoignage ou l'exemple des frères nous pousse à continuellement nous tourner vers la grâce de Dieu en Jésus-Christ, lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Et donc nous avons vu dans le complot quelque chose de très profond, n'est-ce pas, qui vit avec nous et qui touche la vie du croyant encore trop souvent. En deuxième point, nous allons voir le compromis. Le compromis. La dépravation totale du cœur de l'être humain que nous venons de voir est une réalité. Cela signifie que toutes les parties de l'être humain sont entachées d'une manière ou d'une autre par cette dépravation. Il n'y a pas de bon fond qui dort au fond de l'homme. Ceci étant dit, l'être humain n'en demeure pas moins une créature faite par Dieu. Et c'est là qu'on a cette espèce d'équilibre entre ce statut et ce qu'il est devenu. Le péché l'a fondamentalement défiguré cette créature, mais cela ne fait pas disparaître ce statut créationnel. L'homme pécheur est toujours une créature de Dieu. Si l'homme n'est jamais aussi bon qu'il devrait l'être, il est tout aussi vrai qu'il est rarement aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Et Dieu le Créateur se sert de cela pour diriger l'homme. Tout est pris de mal qu'il est dans les voies que lui-même a décidé de suivre. Dieu accomplit son plan et il utilise toutes sortes de choses. Satan, en raison de la méchanceté de son être, désire détruire Job, par exemple, vous vous rappelez. Mais Dieu, dans son statut de créateur souverain, lui impose des limites et frustre les desseins de l'ennemi pour accomplir parfaitement ses propres desseins. Dieu veut manifester sa gloire et il le fait à travers les difficultés de Job et la résilience de Job et aussi le témoignage que Job lui-même n'est pas parfait. Alors que Satan veut détruire, Job n'est pas détruit et Dieu est glorifié. C'est exactement cela. Et nous le voyons ici dans notre histoire. Les frères, mus par une haine invétérée de la justice, ces frères, dis-je, veulent mettre à mort Joseph. Et ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans leur dessein. Mais Dieu est créateur et souverain. Dieu manipule leur cœur. Et voilà que Ruben n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il intervient? Pourquoi est-ce qu'il propose de temporiser? On a avancé quantité de supputations, mais en fait, la réalité, c'est que c'est Dieu qui intervient. Il utilise quelque chose du statut de créature qui est en Ruben pour que la mort n'intervienne pas. Pour le dessein de Dieu, un Joseph mort ne lui sert de rien, car en fait il le veut vendu en Égypte. Il veut finalement un exode et une grande image du salut qui est en Jésus-Christ. Il faut donc que, d'une manière ou d'une autre, Joseph ne meure pas. Mais nous parlons de compromis, car nous sommes bien en présence d'hommes qui sont plongés dans la dépravation du péché. Quelques remords de conscience que pique Ruben, si bien qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout et à mettre à mort son frère, nous voyons que cela ne fait pas de Ruben un ange. Le texte nous apprend qu'il avait à dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais pourquoi ne pas se dresser directement contre les frères et les confronter avec la haine qui est présente dans leur cœur, si Ruben est vraiment touché? Parce que la réponse est parce que c'est un cœur qui est toujours dépravé, ce cœur de Ruben. Son intervention n'est pas motivée par un amour de la vérité et de la justice, mais son intervention, c'est simplement une restriction que Dieu met sur sa nature humaine. Sinon, il aurait confronté ses frères, le péché de ses frères. Ce qui le pousse là est peut-être une certaine peur de passer un point de non-retour, mais en fait, c'est le Dieu créateur qui pince les fibres de sa créature pour préserver la vie de Joseph. Et c'est la même chose avec Judas, quelques instants plus tard. Pourquoi proposer de vendre Joseph? Il dit, il est notre chair. Du côté de Judas, c'est cet élan de son statut sur lequel Dieu agit. Mais Judas reste Judas. En effet, pourquoi le vendre? Pourquoi ne pas le délivrer? Pourquoi ne pas revenir en arrière? Et tout au long, mes amis, c'est Dieu qui œuvre. Pourquoi? Parce qu'un Joseph mort ne lui sert pas plus qu'un Joseph qui retourne à Mamré auprès de Jacob. Non, Joseph doit aller en Égypte pour le dessein de Dieu, pour qu'il y ait un exode, pour qu'il y ait cette image du salut. Si Dieu est absent des pensées des frères, il est très présent pour orienter leurs pensées afin d'accomplir ses desseins. Et c'est un très très grand encouragement pour le croyant, mes amis. À travers le chaos de ce monde, Dieu utilise toutes choses sans exception pour accomplir son dessein. Vous allumez la radio, vous regardez les informations, vous lisez votre journal et vous vous dites « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Beaucoup de choses qui sont atroces, mais Dieu agit sans arrêt et personne ne le sait. Qui aurait pu dire ce jour-là ce qui allait se passer ? Et nous le voyons de manière suprême dans la crucifixion du Seigneur Jésus. Dieu ne cesse d'utiliser la nature dépravée des chefs juifs qui ne peuvent pas ne pas haïr, et la nature dépravée de Satan qui ne peut pas ne pas se dresser contre le bien. Il utilise tout ça pour accomplir ce que son dessein a arrêté d'avance et pour faire comme il l'a décidé et annoncé, pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Encourageons-nous. Le compromis n'atteint jamais son objectif, car Dieu règne et l'objectif de Dieu est atteint. Et cela nous protège de nous-mêmes, il faut le dire. Donc nous avons vu le complot, nous avons vu le compromis, en troisième lieu, nous voyons le contrat. Le contrat. Les frères ont donc jeté Joseph dans la citerne vide. Et que font les fils d'Israël, les futurs chefs des tribus du peuple élu? Ils mangent, et je suis tenté de dire, ils bouffent. La dureté du cœur pécheur. Et tout au long, tout au long, ces gens qui s'empiffrent à côté de leurs frères, ils entendent ces cris. Ils ferment leur cœur à ces cris. Si vous voulez une preuve de cela, notez chapitre 42, verset 21. Et vous verrez des années plus tard, ils entendent encore ces cris. Ces implorations, ces supplications. Le peuple de Dieu lui-même n'a pas de quoi se glorifier en soi-même. Si Dieu lui donne la foi d'Abraham, il a par nature le cœur des fils de Jacob. Mais la dureté du cœur de l'homme ne fait pas toujours ce qu'elle complote. D'abord Ruben et Joseph vit, puis les marchands Madianites, et Joseph descend en Égypte. L'homme propose et Dieu dispose, disons-nous. Et tout cela se passe ainsi parce que le Dieu dont nous parlons est le Dieu de l'Alliance. Il a un but, il a une cible. Et tout au long, depuis l'éternité du passé jusqu'à l'éternité du futur, il poursuit cela. C'est le Dieu de l'Alliance. Il n'est pas emmené par le courant de l'histoire, mais il poursuit un but. Et nous le voyons dans la vie de Jésus. Pourquoi est-ce que les foules ne pouvaient pas le maîtriser? Ce n'est pas parce qu'il était un super-héros. Non, ce n'est pas un Superman. C'est parce que son heure n'était pas venue. Et puis voici un jour, l'heure est venue. La transaction qui a lieu entre les frères et les marchands rappelle bien sûr ce qui s'est passé entre les chefs des Juifs et Judas Iscariote. Et là encore, bien des siècles plus tard, nous avons la même dynamique. Les Juifs, les chefs des Juifs, tout motivés par leur cœur mauvais, veulent détruire celui qui, par lui-même, détruit tout ce qu'ils ont bâti. Le fait que Jésus vient et est différent fait s'écrouler tout leur système religieux qu'ils ont bâti. Et cela réveille ce qu'il y a en eux. Ils veulent le détruire. Comme les frères de Joseph, ils ne peuvent pas lui parler avec amitié. Mais en même temps, nous voyons que les chefs des Juifs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils disent, on veut le détruire, mais pas pendant la fête. Ce qu'ils ont oublié, c'est que, en fait, celui-là, il est déclaré comme étant agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, il est immolé à la fête. Et c'est à la fête qu'il est immolé, n'est-ce pas? Et Dieu utilise cette dynamique de haine qui est leur cœur dépravé pour accomplir son dessein et pour le faire comme il l'a décidé. Les Juifs expriment leur cœur et donc ils sont coupables. Mais Dieu fait ce qu'il veut sans être entaché de leur péché. Car Dieu ne peut pas pécher. Et tout cela arrive ainsi parce que de toute éternité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont unis dans une alliance, un contrat de grâce, pour manifester la gloire du Dieu trois fois saint, le Père remet un peuple au Fils, un peuple qui est au sein d'une race qui va se rebeller. Et le Fils, lui, par amour pour son Père, s'engage à tout faire pour permettre à ce peuple de parvenir dans la présence réconciliée du Père. Et le Saint-Esprit s'engage à tout faire pour appliquer la vertu de l'œuvre du Fils à chacun de ceux qui lui ont été donnés. Et c'est ça l'alliance. Et c'est ça la promesse de l'alliance. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Pourquoi ? Pour ouvrir la porte. Parce que Dieu l'a décidé. Et ainsi, Joseph est choisi. Joseph est appelé. Joseph est haï, assailli, vendu, parce que Dieu veut donner une image précise de ce qu'il va faire en Christ. Et aujourd'hui, nous regardons l'histoire de Joseph Et nous voyons Christ, n'est-ce pas? Bien sûr, Christ est la lumière, Christ est la réalité. Mais l'ombre de Joseph est très précise. Ainsi, celui-ci vient sur la terre, rejeté des hommes, rejeté des siens, affligé, mis à mort. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre par cette voie la porte des cieux, comme il l'a décidé dans les conseils de l'éternité. Voilà l'alliance. Et c'est l'alliance qui garantit toute chose. Le cœur épris d'une dépravation invétérée contribue à l'accomplissement parfait du dessein de grâce et de rédemption de notre Dieu. Dans nos études avec Actes, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Suite à ce qui est arrivé à Étienne, voilà qu'il y avait ce jeune homme qui était complètement rempli de rage. Il va détruire l'Église et Dieu utilise cette rage. Pourquoi? Pour essaimer son Église partout dans le monde. Et voilà que maintenant les gens sont à Antioche, c'est là qu'on les appelle chrétiens, et depuis Antioche, ils vont aller jusqu'en Espagne avant que les actes se terminent. Et certains disent que les actes ne se terminent pas, continuent. Non, c'est afin que ce dessein parfait de grâce et de rédemption de notre Dieu s'accomplisse. Joseph est vendu pour régner. S'il n'avait pas été vendu, il n'aurait jamais été le vice-roi de Pharaon. Jésus est mis à mort pour sauver. Il n'y a pas de salut sans la croix. Puis il ressuscite, mes amis, pour régner à tout jamais selon l'alliance de grâce. Que le Seigneur nous donne de voir ce qui est dans notre cœur par nature, et d'en être fatigué, de venir devant Dieu, parce que son esprit nous y pousse, et de recevoir de Dieu la repentance et la grâce qui nous permettent de voir que oui, Jésus est qui il est, et il a fait ce qu'il a fait, et la porte maintenant est ouverte, et quiconque croit peut entrer et ne pas périr. Oh, que le Seigneur ait compassion envers chacun de nous et nous donne de saisir toute la richesse et la saveur de sa grâce. Amen.